Bonjour à chacun. Ça me faisait plaisir, Charles, de te revoir derrière le micro, là, et te voilà. Et par contre, je trouve que tu viens pas assez souvent, en fait. Déjà parce que ça nous fait plaisir de te voir et t'entendre parler avec l'accent québécois. Je me dis, alors, la barbe, on veut bien. La chemise à carreaux, on veut bien. Mais l'accent, voilà, il faut faire quelque chose. Mais bon, je compte sur toi, donc la prochaine fois, voilà, je ne ferai pas l'accent aussi bien que toi, donc je vais garder le mien. Je vais essayer de garder ce ton de simplicité, voilà, et effectivement ma prière sérieusement et que le message que je vais vous partager ce matin, que le Seigneur m'a mis à cœur, eh bien, soit simple et nous parle. Nous allons remonter le temps ce matin et nous allons aller jusqu'à moins 640 avant Jésus-Christ. Et nous allons voyager aussi, nous allons aller dans le territoire d'Israël, et plus exactement, eh bien, sur le territoire de Juda, où quelques années avant, d'ailleurs, 640, même quelques centaines d'années avant, en 930, exactement, avant Jésus-Christ, eh bien, le royaume d'Israël a été partagé. Le royaume d'Israël au nord, et puis le royaume de Juda au sud. Ah, voilà, on va se synchroniser. Et puis, on va donc, comme je disais, s'intéresser plus particulièrement au royaume de Juda à cette période-là. Et ce que je trouve étonnant, au fond, c'est que quand on lit le récit des rois, et particulièrement des rois de Juda, c'est que certains d'entre eux suivent le Seigneur, font ce qui lui plaît, alors que d'autres, eh bien, s'en éloignent. Et finalement, ce choix est renouvelé presque à chaque génération. Sans qu'on puisse lire, au fond, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu, eh bien, de raisons pour lesquelles eh bien, certains rois choisissent de suivre l'Éternel et puis certains rois choisissent de s'en éloigner. Et je trouve que le seul point commun que j'ai remarqué, en tout cas, entre les rois qui s'éloignent de la parole de Dieu, eh bien, c'est quand ils sont influencés par leur environnement. Et quand ils sont influencés par les nations qui les entourent, eh bien, ils adoptent effectivement les divinités des autres nations. Et puis, les idoles de ces nations-là fleurissent eh bien, dans le territoire de Juda. Et le roi dont je vais vous parler ce matin, eh bien, vous avez un indice avec le titre de cette prédication, est le roi Josias. Et le roi Josias, lui, eh bien, il a fait ce qui plaisait au Seigneur. Et la Bible en parle comme quelqu'un qui fit ce qui convenait, ce qui plaisait au Seigneur. Et alors, on trouve le récit de sa vie dans deux livres de l'Ancien Testament, de la première partie de la Bible, dans 2 Chroniques, chapitres 34 et 35, et dans 2 Rois, chapitres 22 et 23. Alors, ça fait 4 chapitres. Alors, bien sûr, on ne va pas les lire ce matin, ce serait trop long, ou j'aurais terminé la lecture quand il sera l'heure de rentrer. Donc, je vais vous en faire une synthèse. Et je vous encourage eh bien, à lire ces chapitres de la vie de Josias, parce que même si c'est un roi qui a vécu 640 ans avant Jésus-Christ, eh bien, c'est sous son règne et dans son comportement, eh bien, il a des choses à nous dire pour nous aujourd'hui. Voilà. Et si vous n'avez pas de Bible, eh bien, venez me voir après le culte et je me ferai un plaisir de vous en donner une. Donc Josias, quand il prend la tête du royaume de Juda, on va voir les grandes étapes de sa vie. Quand il prend la tête du royaume de Juda, c'est un roi qui est plutôt précoce parce qu'il devient roi à 8 ans. Voilà. Et son père était lui-même roi de Juda. Alors lui, il a pris la royauté à 22 ans, il n'a régné que 2 ans et il a été assassiné. Voilà, c'était la vie joyeuse de ces rois à cette époque. Et Josias, lui, était privilégié parce qu'il a régné quand même 31 ans. Et la première étape de sa vie importante, donc je les mets les références ici, mais je ne vais pas les reprendre à chaque fois, donc si vous voulez les noter, elles sont simplement notées. La première étape de la vie du roi de Josias, eh bien, donc dès le début de son règne, il cherche le Seigneur. Et tout de suite, même s'il était jeune, malgré ses jeunes années, eh bien, il cherche le Seigneur. Et cette recherche, nous dit le texte, eh bien, a duré 8 ans. Et cela a pris donc les 12 premières années de son règne, pendant 8 ans. Alors on ne sait pas exactement quand pendant ces 8 années, le texte ne nous dit pas, mais sa première chose, son premier souci, eh bien, c'est de rechercher l'Éternel. Deuxième étape, c'est le temps des décisions. À la 12e année donc, de son règne, C'est le temps des décisions et il prend des mesures radicales décrites à partir du verset 3. J'extrais simplement ce verset pour montrer un petit peu l'ambiance et ses décisions. Il se mit à purifier Juda et Jérusalem, donc Jérusalem étant dans le royaume de Juda, des hauts lieux, donc des lieux qui étaient consacrés aux autres divinités que celles du Dieu d'Israël, des poteaux cultuels, des statues et des idoles de métal fondu. Puis le texte, dans ce passage-là, eh bien, nous donne comme ça toute une série de décisions, de destructions, afin de purifier le royaume de Juda. Et tout à l'heure, quand Jean-Marc parlait de simplicité, et que disant que Dieu avait conçu des choses simples et que l'homme avait tout complexifié, eh bien, je me dis que finalement, là aussi, on a un bel exemple, parce que finalement, de servir un Dieu, de suivre les commandements qui étaient le Dieu, ça paraît bien plus simple que de suivre plein de dieux, différents dieux, et en plus d'autres nations. Donc voilà, finalement, Josias retourne par ses décisions vers la simplicité de la relation unique avec son Dieu. Et puis au bout de 18 ans de son règne, il missionne 3 personnes pour réparer la maison de Dieu. Et ça, ça a été la grande décision de Josias qui a eu les conséquences les plus importantes. Donc j'ai mis un verset là aussi en exemple, en illustration de ce passage. La 18e année de son règne, pour purifier le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Maseia, chef de la ville, et Yoa, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison du Seigneur. Et puis du verset 8 au verset 13, eh bien, c'est toutes les actions qui sont menées pour réparer le temple, la maison du Seigneur. L'étape suivante, on en est à la 4e étape, eh bien, à vouloir réparer la maison du Seigneur, il retrouve quelque chose qui est formidable, qui est le livre de la loi de Dieu. Et c'est Hilkia, voilà, je vous dis tous les noms, ça fait un petit peu exotique, Hilkia, le prêtre, qui retrouve le livre de la loi de Dieu. Et Josias le lit et prend conscience que eh bien, le fait que son père et son grand-père, donc étaient rois de Juda, s'étant éloignés de Dieu, ayant désobéi, ayant adopté les divinités des autres nations, eh bien, ça peut et ça a déclenché la colère de l'Éternel. Parce que, justement, ils n'ont pas respecté ses commandements. Et cette prise de conscience de Josias, que le peuple s'est éloigné de la parole de Dieu, eh bien, pousse à la repentance, pousse Josias à la repentance, et surtout à restaurer l'alliance entre le Seigneur et le peuple, hein, de remettre Dieu eh bien, au centre, au milieu du peuple. Étape suivante, on est toujours dans le chapitre 34, versets 29 et 33. Là, Josias rassemble tout le monde, tout le peuple de Juda, eh bien pour recréer, pour réofficialiser, si je puis dire, l'alliance entre le peuple et l'Éternel. Et puis c'est la fête, célébration de la Pâque, parce que justement la relation a été restaurée, donc ça se célèbre, hein, et Josias et le peuple donc célèbrent la Pâque, la 18e année de son règne aussi, donc la même année où il a retrouvé le livre, hein, donc la prise de conscience a été rapide. Et le texte nous dit, verset 18, là aussi un extrait de ce passage, « On n'avait pas célébré une Pâque comme celle-là en Israël depuis les jours du prophète Samuel. » Donc tout ce temps, de son père, de son grand-père, eh bien, le peuple s'était éloigné de Dieu, de sa parole, et là, avec Josias, il retrouve sa parole et ses commandements, et il le fête par la Pâque. Et à la fin de son règne, eh bien, c'est la mort de Josias, où il meurt au combat, en fait, parce qu'il a désobéi. Il a désobéi à Dieu, qui lui avait soufflé de ne pas les combattre. C'est le roi d'Égypte qui déconseillait à Josias de ne pas les combattre. Et, le roi d'Égypte, qui avait été inspiré par Dieu, désobéissant à Dieu, eh bien, il est quand même allé combattre, et c'était la fin de sa vie. Alors voilà un survol comme ça de la vie de Josias, et j'ai sauté certains événements, donc c'est la raison aussi pour laquelle je vous invite à relire la totalité de sa vie, et j'ai trouvé qu'il y avait deux niveaux d'enseignement dans ces passages et par rapport à la vie de Josias et à son règne. D'abord un enseignement pour l'Église, hein, en tant qu'assemblée, en tant que collectif, j'ai envie de dire, et aussi un enseignement à notre niveau, enfin au niveau individuel. Voilà, c'est presque deux prédications au fond pour le prix d'une. Voilà, si vous venez pour la première fois dans notre église, vous avez bien choisi votre jour, parce qu'aujourd'hui, c'est promo. Voilà, deux prédications pour le prix d'une. Donc, on va commencer par le niveau collectif et des enseignements pour l'église. Parce que même si, bien sûr, le peuple d'Israël n'est pas l'église, on n'est pas à la même époque, eh bien, je pense quand même que pour nous, en tant qu'assemblée, eh bien, nous avons des leçons, des enseignements à tirer de la vie de Josias et du peuple. Et le point que je veux souligner principalement est le niveau d'engagement du peuple et aussi de Josias. Tous les acteurs de ce récit ont chacun un haut niveau d'engagement. Et tout au long de ces quatre chapitres-là, enfin deux chapitres au fond de Chroniques, on voit que le peuple s'engage, et encore une fois, chacun à son niveau. Et il y a deux grands domaines d'engagement. Il y a d'abord un engagement pratique, matériel, avec concrètement la reconstruction et la réparation du temple, et puis un autre niveau d'engagement qui est un engagement spirituel, comme par exemple quand Josias renouvelle l'alliance avec le peuple, ou encore quand la Pâque est célébrée. Et donc si on attaque d'abord par l'engagement pratique, matériel, il est là aussi de différentes natures et différents niveaux. Et il y a d'abord un engagement financier de la part du peuple, et je crois que c'est un premier niveau d'engagement. Il y a vu à l'époque comme une grande collecte, si je puis dire, d'organiser dans tout Israël, alors pas seulement dans le royaume de Juda, mais aussi Israël. Et le texte nous dit que tout le monde, tout le monde a participé. Là aussi, un verset qui illustre ce que je vous dis, hein, où l'ensemble du peuple, Israël comme Juda, avait participé à cette collecte. Donc les deux responsables des travaux vinrent trouver Hilkia, le grand prêtre, et on donna l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu, et que les Lévites, gardiens du seuil, avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm, les tribus d'Israël, et de tout le reste d'Israël, ainsi que de tout Juda et Benjamin, ça c'est pour les tribus du royaume de Juda. Et tous les Israélites, au fond, ont donné. Et s'ils ont donné, c'est parce qu'ils se sont sentis concernés par la réparation du temple. Et je crois que le premier niveau justement de l'engagement, ce qui nous pousse à nous mettre en mouvement, est de se sentir concerné. Et là encore, le peuple s'est senti concerné par la réparation du temple. Et je crois qu'on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle justement avec la vie de l'Église. Dans quelle mesure, à mon niveau, où que je sois, quoi que je fasse, qui que je sois, quoi que je sache faire, enfin bref, tout le monde, quoi, dans quelle mesure je me sens concerné par la vie de l'Église. Et là, dans le peuple d'Israël, dans cet exemple-là, ils ont tous contribué, soit indirectement en finançant la réparation, soit directement en maniant la pelle et la pioche, si je puis dire, pour réparer le temple. Et si je cite l'engagement financier, c'est bien sûr comme un exemple, au fond, de l'engagement. Stéphane a traité le sujet des finances la semaine dernière, donc je ne vais pas en mettre une couche. Voilà, ce matin, il a fait ça très bien. Et pour moi, c'est un exemple d'engagement financier. Je vois que le trésorier regrette que je n'aborde pas le sujet de vous, mais voilà. Stéphane l'a fait très bien la semaine passée. Et c'est pour moi, c'est une bonne illustration de la manière dont le peuple s'est senti concerné par la réparation du temple. Donc il y a un engagement pratique et matériel, comme on vient de le voir, et puis il y a aussi un engagement spirituel. Par exemple, une partie des Lévites, une partie du peuple, les Lévites, est mobilisée pour réaliser les sacrifices, organiser la Pâque, donc engagée dans le domaine spirituel. Et un autre exemple d'engagement spirituel est lorsque l'ensemble du peuple, c'est la totalité du peuple qui renouvelle l'alliance avec le Seigneur, c'est aussi l'ensemble du peuple qui célèbre la Pâque. Et puis le roi et les princes, les chefs aussi d'Israël, à leur niveau, au moment de la célébration de la Pâque, prélèvent de leur richesse des bêtes pour les sacrifices. Enfin, bref, on voit qu'au-delà de l'engagement matériel, il y a aussi un engagement spirituel. Et je trouve que ce récit est intéressant parce qu'on a les deux facettes de l'engagement dans l'Église, le matériel et le spirituel. Et bien sûr, j'ai envie de dire, les deux types d'engagement ne s'opposent pas. Ce sont les deux versants, au fond, d'une même montagne, et les deux se rejoignent au sommet. Les deux vont de pair. Si le temple n'est pas réparé, il y a un engagement matériel. Il ne peut pas abriter le spirituel. Et cet engagement matériel qui est la réparation du temple, porte du fruit spirituel, parce que c'est à cette occasion que le livre de la loi est retrouvé. Et s'il n'y a pas de spirituel dans le matériel, finalement, l'engagement, tout engagement, perd son sens. Même quand on fait le ménage ici, c'est aussi un engagement spirituel. Et je trouve que c'est une illustration du premier verset du psaume 127, qui nous dit que si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, les ouvriers travaillent en vain. Alors, les deux niveaux d'engagement, matériel et spirituel, ne s'opposent pas. Mais quand même, on peut dire que le matériel, l'engagement matériel est au service du spirituel, comme la vocation du temple est d'être tourné vers le spirituel. Et au-delà de cet engagement, il y a une responsabilisation forte des Hébreux. Parce que chacun prend ses responsabilités en tant que membre de la communauté. Et ça va du roi Josias, hein, qui s'engage, qui a réouvert le livre, jusqu'à l'hébreu de base, si je puis dire. Ce n'est pas très joli comme expression, mais bref, pour dire que tout le monde s'est engagé et s'est responsabilisé. Et c'est notamment intéressant de voir comment Josias a assumé et a pris sa part de responsabilité. D'abord, sa première responsabilité a été de se tourner à nouveau vers le Seigneur. Et ça, je vous l'ai dit, il l'a fait depuis son plus jeune âge. Il conduit le renouvellement de l'Alliance, il célèbre la Pâque, tout ça se fait sous sa responsabilité. Il nomme aussi des responsables pour s'occuper des différents postes, pour s'occuper de la réparation du Temple. Et c'est lui qui lit le livre, lui-même qui lit le livre de la loi au peuple. Il installe les prêtres, enfin bref, il organise toute la réparation du temple et la mise en mouvement, si je puis dire, du peuple vers le Seigneur. Et à partir de ça, à partir de ces consignes, à partir de cet engagement, eh bien, chacun prend ses responsabilités. Et le principal enseignement que je voudrais mettre en avant pour nous en tant qu'Église, eh bien, est que chacun d'entre nous a à se sentir concerné par la vie de l'Église, comme ça a été le cas pour les Hébreux. Parce que c'est le fait de se sentir concerné, c'est le premier pas au fond de l'engagement. C'est le fait de se sentir concerné qui met en mouvement dans le service. Alors si je dis ça, je ne veux pas dire que j'ai l'impression que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Évidemment, j'ai eu envie de culpabiliser personne, ce n'est pas du tout ma pensée. Mais je crois que malgré tout, nous sommes tous amenés à nous poser cette question. Dans quelle mesure je me sens concerné par la vie de l'Église? Dans quelle mesure j'y contribue? Financièrement d'une part, ça a été dit, je ne reviens pas sur ce sujet. Comment je contribue aussi en temps, en talent partagé, et c'est vrai que dans l'Église, d'une manière générale, les possibilités d'engagement sont multiples. Et l'Église ne peut fonctionner que si ses membres s'engagent. Et je crois que nous avons tous à nous poser régulièrement la question de notre engagement. Quelle est sa nature? Quelle est sa quantité? Et quel que soit notre rôle, quel que soit notre poste, aussi on peut se poser la question de quelle manière je renouvelle mon engagement. Est-ce que mon engagement d'hier est adapté à la vie de l'Église d'aujourd'hui? Parce que l'Église a des besoins qui évoluent. Et donc c'est important, même si je suis engagé en quantité dans l'Église, eh bien, que je me pose régulièrement cette question, est-ce que mon engagement est adapté? Alors l'événement majeur de la vie de Josias, je vous l'ai dit, est la redécouverte du livre de la loi. Et ça a été la source d'une prise de conscience collective. Le peuple s'est éloigné de Dieu. Et c'est vrai que j'aurais plein de choses à dire sur ce sujet, mais je voudrais souligner la dimension collective des choses. La parole est enseignée de manière collective. Josias a lu la parole devant le peuple rassemblé. Le renouvellement de l'Alliance est aussi collectif. La Pâque est prise de manière collective. Tout le peuple est rassemblé. Et nous sommes ce matin un collectif, une assemblée, une église. Et l'apôtre Paul prend l'image du corps. Non, ça va, je suis moins à jour là. On sait que l'apôtre Paul prend l'image du corps pour parler de ce collectif là, qu'est l'église. Et pour que ce corps fonctionne, eh bien, soit en bonne santé, il est nécessaire que chaque partie, chaque membre du corps, eh bien, soit en mouvement. Alors encore une fois, mon intention n'est pas de culpabiliser qui que ce soit, mais que chacun d'entre nous, encore une fois, se pose la question de la nature et de la quantité de son engagement. Et notre Église évolue, et avec elle, ses besoins d'engagement. Et prions pour que le Seigneur renouvelle notre engagement dans l'Église, dans sa nature, et aussi dans sa qualité et sa quantité. Voilà, ça c'est la première prédication. Pourrons passer à la deuxième prédication. Avec... cette fois-ci, un enseignement personnel, au niveau personnel. Parce que je trouve, là aussi, qu'il y a un parallèle, il y a plusieurs parallèles à tracer, à éclairer, entre la vie du peuple d'Israël sous Josias et puis nous, notre vie aujourd'hui. Et la première étape, eh bien, est la recherche de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, Josias, dès petit, au moins à l'âge de 8 ans, donc vraiment, pensons à nos enfants pour ça, eh bien, manifeste une grande soif de Dieu. Et il montre qu'il cherche sa volonté, contrairement à son père et à son grand-père, qui, eux, se sont éloignés de la parole. Ce qui n'était pas le cas, d'ailleurs, entre parenthèses, de son arrière-grand-père, qui, lui, avait été fidèle à la parole de Dieu. Donc, vraiment, c'est un choix personnel. Donc Josias prend très jeune la tête du royaume de Juda, je l'ai dit à 8 ans, et cette recherche, le temps qui passe à rechercher Dieu, eh bien, prend un certain temps, puisque, je l'ai dit aussi, elle a duré 8 ans. Et ses premières actions, ses premiers choix, ses premières grandes décisions, eh bien, ne se déroulent qu'à la 12e année. Donc il avait 20 ans. Et ses premières décisions, ses premières actions, eh bien, consistent à supprimer les lieux de culte des divinités étrangères. Et puis ensuite, il lance la réparation du temple qui avait été abandonné. Mais ce qu'on doit retenir de la vie de Josias, au fond, ce n'est pas tellement ses actions en elles-mêmes, mais c'est les conséquences que ses actions, ses décisions ont eues sur le peuple. Et la principale conséquence de cette démarche, de la recherche spirituelle, est de retrouver le livre de la loi de Dieu qui était dans le temple. Et cette découverte, eh bien, va bouleverser sa vie, et en plus, celle du peuple dont il avait la charge. Alors, on ne sait pas vraiment ce qui a poussé Josias à rechercher Dieu. On n'a pas cette information-là dans le texte. Est-ce que c'était une soif personnelle? Est-ce que c'était l'enseignement de sa mère, dont on ne sait rien? On ne sait pas pourquoi il a choisi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il recherche Dieu et ensuite il agit. Et cette action, eh bien, conduit à retrouver le livre. Et ça me fait penser à ces grandes rencontres dans les évangiles où eh bien, des personnes, des hommes et des femmes dans l'évangile rencontrent Jésus. Et on se retrouve souvent cette situation où des hommes et des femmes dans l'évangile eh bien, font les efforts pour rencontrer Jésus. Et il se passe alors la chose suivante. Cet homme ou cette femme fait l'effort, cherche à voir Jésus, et alors là, Jésus vient à lui. Comme si Jésus honorait la recherche de cette personne. Je pense à quelques exemples, comme un exemple assez connu sur l'exemple de Zachée, par exemple, dans Luc 19, qui va grimper dans l'arbre pour voir Jésus. Jésus va aller le voir et dire qu'il veut dîner chez lui. Ou encore cette femme qui était malade, qui avait des pertes de sang, qui a écarté la foule pour atteindre Jésus. Et Jésus s'est rendu compte qu'elle était en recherche et s'est adressé à elle. Donc ça, c'est dans Matthieu 9. Et il y a même des situations où la personne, étant handicapée, ne peut pas aller vers Jésus. Et là, ce sont ses amis eh bien, qui accompagnent, qui mènent cette personne à Jésus, pour qu'il puisse le rencontrer. Et je crois que, enfin je ne crois pas, je sais, et je lis aussi dans la parole, que Dieu honore ceux qui le cherchent en se révélant à eux. Ça a été vrai pour Josias, Josias a fait l'effort de retourner vers la parole, vrai pour les exemples des personnes que j'ai citées des évangiles, Zachée, la personne qui avait des pertes de sang, et c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. Et pourtant ce ne sont pas toujours ces situations qui sont décrites dans l'évangile. Le fait qu'il y ait une rencontre entre Jésus et l'homme, que ça se passe bien, et ce n'est pas toujours le cas. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Parce que dans les évangiles, il y a des personnes, des hommes et des femmes, qui, bien que côtoyant Jésus, eh bien, le quittent. Certains lui ont même demandé de partir. Certains l'ont chassé. Et quand je lis ces passages, eh bien, ça me paraît toujours étonnant d'avoir Jésus en face de soi, d'assister à des miracles, et pourtant ne pas mettre sa foi en lui. C'est un peu la même chose avec les rois de Juda, au fond. Certains eh bien, vont vers Jésus, enfin pas vers Jésus, mais vers Dieu, et d'autres le repoussent. Comme je l'ai dit, son père, son grand-père, eux, se sont éloignés. Josias ne l'a pas fait. Josias, lui, est allé vers Dieu. Mais dans les évangiles, à chaque fois qu'un homme et une femme, d'un cœur sincère, avec simplicité, justement, eh bien, est allé vers Jésus, et Jésus a honoré cette rencontre et est allé vers elle. Et je crois que nous pouvons faire un parallèle pour nos vies aujourd'hui, que ce soit un encouragement pour nous eh bien, à rechercher Dieu. Car le Seigneur eh bien, se laisse trouver des personnes qui le recherchent d'un cœur sincère. Et je mets cet exemple-là, aussi un verset de l'Ancien Testament dans le livre Deutéronome 4, 29. Tu trouveras ton Dieu si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Et c'est ce que dit aussi Josias dans les passages, de chercher Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Et comme pour Josias, eh bien, rechercher Dieu consiste par la lecture de la parole. Retrouver le livre, c'était le titre de ma prédication. Et ce livre, pour nous, eh bien, c'est la Bible. Alors nous n'avons plus aujourd'hui les prophètes, comme c'était le cas au temps de Josias, pour décrypter la parole, pour chercher la volonté de Dieu. Mais nous avons la Bible, et nous avons notamment le Nouveau Testament, avec particulièrement les évangiles, qui nous parlent de la vie de Jésus, et qui montrent, qui expliquent sa place essentielle dans le plan de Dieu pour l'humanité. Alors comme Josias a compris en lisant les livres de la loi, que lui et le peuple, eh bien, c'était éloigné de Dieu, de sa volonté. La lecture de la Bible, eh bien, nous permet aussi de comprendre notre besoin de Dieu, quel est notre besoin terrible de Dieu, j'ai envie de dire, et de renouer une relation avec lui. Comment revenir dans sa présence, comme Josias l'a fait en remettant Dieu au centre du peuple. Les exemples de vie décrits dans la Bible montrent que c'est un choix personnel. Ce n'est pas le choix de mes parents. Ce n'est pas le choix de mes parents. Il y a plusieurs générations dans les familles présentes ici dans l'Assemblée. Et Josias tout montre que le choix de suivre ou pas suivre le Seigneur, c'est un choix personnel. C'est vraiment un choix personnel. C'est un choix qui m'appartient et qui appartient rien qu'à moi. Et si je reviens ensuite à la vie de Josias, l'étape qui suit la découverte ou la redécouverte de la loi de Dieu est décrite à partir du chapitre 34, au verset 29 à 33. Et c'est ce que j'ai appelé la conversion. Et je souligne particulièrement un verset qui est le verset 31. « Le roi se tenait debout à sa place, et devant le Seigneur, il conclut l'alliance en s'engageant à suivre le Seigneur et à observer ses commandements, ses préceptes et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme. » Tiens, comme le verset de tout à l'heure. « Afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance décrites dans ce livre. » Et c'est un engagement fort parce qu'il s'agit d'un engagement public, d'un roi devant son peuple. Ce n'est pas rien de se présenter comme ça et dire à quoi il s'engage. Et quelque part, c'est une officialisation de sa décision. Et je crois que c'est une autre étape de la vie de Josias. Et son engagement aura pour conséquence l'engagement du peuple dans le même sens. Il officialise sa décision, c'est-à-dire qu'il rend public le fait qu'il se tourne vers Dieu et qu'il s'engage à obéir à ses commandements. Et si je continue le parallèle avec le chrétien d'aujourd'hui ou la personne qui est en recherche, je trouve que l'on peut comparer l'engagement de Josias à la conversion. C'est pour ça que j'ai appelé cette partie justement la conversion. Josias s'engage à suivre le Seigneur de tout son cœur et de toute son âme. Et là aussi, ça fait écho à un autre verset que Jésus reprendra quand un expert de la loi lui demandera « Mais quels sont les commandements les plus importants ?» Et dans Matthieu 22, verset 37, Jésus répond à cet expert de la loi. Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » Et on voit aussi le parallèle entre justement les deux versets, les deux époques. La conversion, dire oui à Dieu, suivre sa loi, c'est-à-dire pour nous suivre l'exemple de Jésus-Christ, ça s'accompagne d'un engagement et d'un engagement public. Mais pour nous, aujourd'hui, la conversion a une autre signification, peut-être plus profonde qu'à l'époque de Josias. Parce que Josias, lui, s'engageait à obéir à la loi de Dieu. Nous, aujourd'hui, quand on se convertit, quand on se tourne vers Dieu, nous acceptons de prendre Jésus-Christ comme modèle. Nous l'acceptons comme maître. Et nous l'acceptons comme sauveur. C'est-à-dire que nous comprenons qu'en mourant sur la croix, comme Charles l'a bien dit et expliqué tout à l'heure, j'aurais dû aussi dire que c'était... Je ne vais pas te chambrer que sur l'accent, mais il y avait bien sûr des choses profondes. Je me dis, tiens, ça, je vais pouvoir en parler aussi ici. Que le Seigneur nous a ouvert le chemin vers Dieu. Et c'est vrai que ça nous permet d'entrer dans la présence du Père. Et sa mort et sa résurrection me permettent de bénéficier de la vie éternelle, comme une nouvelle naissance. Et il ne pouvait pas y avoir cette dimension dans l'engagement de conversion de Josias, parce que c'est une dimension que Jésus-Christ a apportée 640 ans plus tard, après le règne de Josias. Mais Josias est allé aussi loin qu'il le pouvait pour son époque. Il s'est engagé publiquement à suivre les commandements de Dieu, de tout son cœur, de toute son âme. Et ce montre bien aussi l'apport de Jésus-Christ dans le plan de Dieu pour l'humanité. Christ est mort et ressuscité, et il nous a ouvert le chemin vers le Père et la vie éternelle. Josias a recherché le Seigneur, il a redécouvert sa parole, il a écouté sa volonté, et il s'est engagé devant le peuple. Et de la même manière que nous aussi, quand nous sommes à la recherche de Dieu, nous découvrons sa parole par la Bible, nous comprenons sa volonté pour nos vies, nous nous convertissons, nous comprenons que le Seigneur souhaite une relation personnelle avec nous, et que nous pouvons accepter Jésus dans nos vies. Il reste un troisième parallèle que j'aimerais souligner entre la vie de Josias et puis nos vies aujourd'hui, c'est de participer au repas. C'est le repas de la Pâque, où c'était la fête pour le peuple d'Israël d'avoir renoué le lien avec l'Éternel. Alors la fête de la Pâque a été instaurée sous un commandement de Dieu par Moïse. Et elle célèbre la sortie d'Égypte des Israélites après avoir vécu 400 ans en esclavage. La Pâque, c'est aussi le souvenir. Et le mot Pâque vient d'un mot hébreu, d'un verbe hébreu qui signifie « épargner ». Ils ont été épargnés. Et c'est donc le souvenir d'avoir échappé à la mort, d'avoir échappé à la colère de Dieu. Elle a été si forte, la colère de Dieu, que tous les enfants premiers-nés d'Égypte, eh bien, sont décédés, mais pas ceux des Israélites. Ils ont été épargnés de la mort. Et lorsque Josias fête la Pâque avec son peuple, ils se souviennent qu'ils ont échappé à la mort et échappé à l'esclavage. Mais ils fêtent la nouvelle obéissance, du lien, de la restauration du lien entre le peuple et l'Éternel. Et la fête de la Pâque peut alors être célébrée. Et si je continue le parallèle avec notre vie aujourd'hui, je crois que ça correspond avec la Sainte Cène, justement, comme Charles l'a dit. Parce qu'après ma conversion, une fois que je me suis engagé à reconnaître Christ comme Seigneur et Sauveur, alors je peux partager le pain et le vin. J'en comprends la pleine signification. Jésus m'a invité à sa table. Jésus m'a invité à sa table et je lui ai dit oui. Et je peux entrer dans l'intimité du Seigneur. Et ça devient une fête. Et je me réjouis de cette invitation. Je me réjouis que Christ m'ait invité à sa table. Et je comprends le sacrifice parfait que Christ a été sur la croix. Je comprends qu'il est mort à ma place et qu'il est mort pour moi, comme jadis. Eh bien, et j'ai été épargné aussi, moi, de la mort, comme jadis. Les premiers-nés des Israélites ont été épargnés. Au temps de Josias, il y a 36 000, peu importe, je ne les ai pas recomptés, mais 36 000 bêtes qui ont été nécessaires pour le sacrifice, pour le pardon des péchés, pour le peuple du temps de Josias. Et pour pardonner le fait qu'il s'était éloigné de Dieu, séparé de Dieu. Et nous n'avons plus besoin, nous, de faire de sacrifice comme au temps de Josias, car Christ a été le sacrifice sur la croix. Et lorsque nous reconnaissons ce sacrifice, nous ne sommes plus séparés de Dieu. Nous pouvons entrer dans sa présence et manger à la table du Christ. Alors, en conclusion, j'espère vous avoir donné envie de lire la vie de Josias, un roi qui a vécu il y a à peu près 2700 ans. Et pourtant, ben voilà, j'espère avoir souligné le fait qu'il a encore des choses, son comportement a encore des choses à nous dire aujourd'hui. Et je vous ai présenté cette prédication comme s'il y avait au fond deux prédications, comme s'il y avait deux niveaux qui coexistaient, un niveau collectif et un niveau personnel. Et pourtant, bien sûr, les deux niveaux sont liés. Et en relisant ma prédication ce matin, je me disais, finalement, j'aurais dû commencer par l'inverse. J'aurais dû commencer par le niveau personnel et ensuite le niveau collectif. Parce que ma décision, elle est au niveau personnel, de conversion, de relecture de la parole, d'engagement, d'être invité, dire oui à la table du Seigneur, pour ensuite m'engager dans l'Église. Parce que quand je suis engagé dans l'Église, plutôt engagé avec le Seigneur, eh bien, je ne peux pas faire autrement que de m'engager dans l'Église et de le servir et de me sentir concerné par la vie de l'Église. Comment je fais pour prendre pleinement ma place dans le corps de Christ, le corps qu'est l'Église? Et je termine par ce verset de l'apôtre Paul. C'est par Christ que le corps tout entier, bien coordonné et uni, grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même avec amour. C'est un verset que je laisse quelques instants parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais comment je prends ma place pleinement dans l'Église pour que chacun à mon niveau, en tant qu'organe du corps, eh bien, je puisse me développer, croître, grandir. Et pour que cette croissance eh bien, puisse faire croître le corps, l'assemblée, l'Église que nous sommes. Et tout ça est dans l'amour. Voilà. Amen.